Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Lim Wong Nok, maître de conférence à l'Université de Paris.
Alors, les auditeurs attentifs de Dessous connaissent bien Lim, puisque certains ont été jusqu'à remarquer que c'était mon invité par excellence, celui qui est venu le plus grand nombre de fois, avant Jacques Nikonoff, paraît-il. Alors, c'est là que je vous fais venir, parce que vous avez écrit un livre qui va paraître, donc que je n'ai pas lu, qui s'appelle « 10 questions sur la dette » aux éditions Michalon. Et il s'agit d'un entretien qui est conduit par Pierre-Luc Séguillon, qui vous pose donc 10 questions. Alors, moi, en l'occurrence, ça m'intéressait ce thème-là aussi parce que pendant la campagne électorale, j'ai eu la surprise d'entendre Ségolène Royal parler, elle aussi, du problème de la dette. Alors je me suis dit, décidément, tout le monde est d'accord, à gauche, à droite, tout le monde est d'accord, la dette, c'est réellement un problème, non ?
Oui, tous les candidats à la présidentielle ont fait de la lutte contre la dette leur cheval de bataille, autant Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy ou François Bayrou. Qui est resté d'ailleurs sur ce créneau, puisque Nicolas Sarkozy a mis en veilleuse son discours sur la dette. Il faut savoir que l'UMP au Sénat a enterré en catimini le rapport Pébrot, dont on va parler dans un instant, qui est le rapport officiel ayant attiré l'attention du grand public sur le problème de la dette, sur un discours relativement orthodoxe, comme le disent les économistes, orthodoxe au sens où les économistes néolibéraux considèrent aujourd'hui que la dette est un problème parce que elle va peser sur les générations futures et notamment sur leur capacité d'épargne. C'est-à-dire que si l'État dépense trop, fait du déficit, il faudra prélever par l'impôt sur les générations futures et dans ce cas-là, celles-ci ont moins de capacité d'épargne, et moins d'épargne, c'est moins d'investissement pour les entreprises et moins de dynamisme économique. D'où le discours sur la réduction de la dette pour pouvoir réduire les impôts et favoriser le dynamisme de l'offre. C'est un petit peu le discours officiel qui a même été repris par la candidate socialiste, puisque moi je me souviens que lors de son discours à Villepinte qui était censé lancer sa campagne pacte présidentiel, elle a tout articulé ce discours sur la question de la dette. Elle a commencé sur la dette en expliquant que il fallait la réduire et qu'il fallait réformer l'État excessivement jacobin et centralisateur, en poursuivant sur l'autonomie des universités, etc., sur des thématiques disons que François Bayrou aurait pu et d'ailleurs a repris. La droite, par le biais de Nicolas Sarkozy, a fait une campagne de même type, avec au centre de l'argumentaire la nécessité de réduire de moitié les effectifs de la fonction publique. Et ils vont commencer d'ailleurs à le faire cette année. Et ensuite, les cadeaux fiscaux qui ont été faits au cours de cet été, 15 milliards d'euros, font qu'ils ont vidé les caisses. Ça explique que Sarkozy a mis en veilleuse son discours sur la dette, en disant même aujourd'hui qu'il était extrêmement critique à l'endroit du pacte de stabilité et des contraintes européennes et que son volontarisme le conduisait à utiliser le budget de l'État, quoi.
Et pourquoi la dette ? Parce que l'État est trop dispendieux ? Ou c'est pas venu comme ça ? Subitement, l'État s'est décidé à faire plein de choses et à dépenser beaucoup d'argent. Donc, du coup, il s'endette. C'est ça le problème ou ça marche pas comme ça ?
Alors, l'ouvrage attire l'attention sur ce que j'appelle le paradoxe de la dette. C'est que, contrairement à ce qu'on pense, lorsque l'État intervenait massivement dans l'économie au cours des Trente Glorieuses, si on prend l'épisode 81-83 qui est le prolongement des Trente Glorieuses, les taux d'endettement ont jamais excédé 20-23% en 83, quoi. Pendant les Trente Glorieuses, le taux d'endettement c'était 18%. Et là, tout d'un coup, ça explose très précisément à partir de 93. 93, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le moment où Édouard Balladur est nommé Premier ministre et où, dans le parti majoritaire à droite, le RPR, l'aile libérale, à laquelle appartient déjà Nicolas Sarkozy à l'époque, prend le pas sur l'aile gaulliste. Balladur-Sarkozy, Sarkozy était ministre du budget à l'époque, arrive au gouvernement avec un programme résolument libéral, enfin moins résolument qu'aujourd'hui, mais on commence à enfoncer le clou sur un certain nombre de thématiques. On met en place une deuxième vague de privatisation, on commence à baisser l'impôt sur le revenu en réduisant le nombre de tranches d'imposition, on met en chantier la réforme des retraites. On promeut un plan quinquennal pour l'emploi qui fait de la baisse du coût du travail l'alpha et l'oméga de la politique de l'emploi, etc. Et le paradoxe, c'est que ce sont les politiques censées réduire le poids de l'intervention de l'État dans l'économie qui sont concomitantes avec la montée de la dette. Hein, c'est à partir de 93 que la dette explose. Et je rappellerai que ce prétexte-là, le fait que le taux d'endettement a quasiment atteint les 60% du PIB autorisé par le traité de Maastricht, qui, en 1996, a conduit Dominique de Villepin, qui était secrétaire général de l'Élysée, à préconiser la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que il pensait qu'il fallait un impôt, monter l'impôt pour rentrer dans les clous des 60% du PIB pour se qualifier pour l'euro. La dette publique, c'était 38% du PIB en 93, c'était 58% en 1997.
Là, tout de suite, vous avez dit concomitante. Et c'est concomitante ou explicative, on pourrait dire. Enfin, est-ce que c'est selon les politiques libérales qui ont été mises en place qui expliquent le déficit, enfin la dette?
Ma thèse est que oui, c'est-à-dire que paradoxalement ce sont des politiques qui avaient pour objectif de réduire la dette. La politique menée par Juppé en 95, c'était une politique dite de réduction des déficits, mais malgré la compression des dépenses publiques, des dépenses sociales et les privatisations, ces politiques ont creusé la dette. Alors le grand public n'y comprend rien. Comment se fait-il que des politiques censées réduire la dette ont creusé la dette? Bien, tout simplement parce que elles ont cassé la croissance, elles n'ont pas été à même de soutenir la croissance, elles ont plombé la consommation sans relancer l'investissement. Tout bon étudiant de sciences économiques sait que la croissance, c'est la consommation et l'investissement en premier lieu. Et donc, moins de croissance, c'est moins de rentrée fiscale. Et quand vous faites des projets de budget avec des objectifs de 3% et que votre croissance est inférieure à 1%, eh bien vous avez des rentrées fiscales qui font défaut et des déficits qui, mécaniquement, se creusent. Et donc, c'est l'inefficacité des politiques libérales, si vous voulez, qui est responsable de la croissance. Et on peut comparer ça avec le fait que dans la période précédente, des politiques où l'État était réellement volontariste, où l'État dépensait, n'ont pas conduit, contrairement à ce que l'on pense, à endetter la France.
Des sous et des hommes sur Aligre FM 93.1 et on est en compagnie de Limo Angnok qui a écrit un livre qui s'appelle 10 questions sur la dette aux éditions Michalon et qui va sortir tout bientôt. Alors décidément, il y a un petit truc que je comprends pas dans ce que vous me dites. Vous avez dit tout à l'heure, juste avant la musique, qu'en fait c'était les politiques de droite qui étaient cause, d'après vous en tous les cas, de la dette. Et cependant, je n'arrête pas d'entendre des appels à lutter justement contre cette dette, à la réduire. Ils sont schizophrènes, ces pauvres gens de droite.
Mais ils sont conscients que les cadeaux fiscaux vont creuser les déficits. Un vrai libéral dirait le choc fiscal créé par les 15 milliards du paquet fiscal va relancer la croissance et donc réduira la dette. Mais ils n'y croient même pas. Tous leurs conjoncturistes leur disent que la croissance cette année, ça va être dur d'atteindre les 2% alors qu'ils ont construit leur projection sur 2,25 ou 2,50. Ils savent très bien que ça va creuser les déficits. En clair, au-delà du débat techno, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance dans l'impact de leur politique sur la croissance et qu'ils savent que les 15 milliards vont creuser le trou, quoi. Bon, mais cela dit, moi je suis de ceux qui pensent que l'obsession de la dette doit être relativisée. J'ai fait ce bouquin contre le rapport Pébrot pour bien indiquer que dans le contexte actuel, il n'y a pas de problème de dette, il y a un problème de gaspillage des marges de manœuvre budgétaires qu'autorise la dette publique. Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a dans ce pays une épargne abondante. Plus de 15% du PIB est consacré à l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est les placements financiers, pour aller vite. Bon, en théorie, ça sert à quoi l'épargne? L'épargne, ça sert à faire en sorte que les entreprises qui veulent investir disposent de fonds propres pour l'investissement. Ce qui leur permet par ailleurs de s'endetter, puisque quand vous avez des fonds propres importants, vous pouvez vous endetter pour investir. Alors le gros problème de l'économie française aujourd'hui, c'est que on a des entreprises qui ont des fonds propres importants, qui ont des marges d'autofinancement fortes, mais qui n'investissent pas. Hein, aujourd'hui, entre 50 et 80% des profits sont distribués sous forme de dividendes, et les entreprises... par ailleurs, n'investissent pas. Ce qui fait que il y a une vraie panne d'investissement qui est source de manque d'innovation et de perte de compétitivité sur les marchés, faisant que le déficit du commerce extérieur français est devenu chronique. Et par conséquent, dans un contexte où les entreprises n'investissent pas, où la consommation est devenue le principal moteur de la croissance, et en particulier la consommation des classes riches, qui bénéficient des baisses d'impôts, eh bien, tout ça ne suffit pas pour faire en sorte que nous ayons une croissance soutenue, d'où le fait que la croissance française plafonne et est à la remorque de la croissance européenne et mondiale. Et donc, dans ce contexte où l'épargne ne finance pas fondamentalement l'investissement privé des entreprises, parce que celles-ci sont sous l'emprise du court terme des fonds de placement, eh bien, il est sain que l'État prenne le relais et que cette épargne vienne financer des dépenses de l'État à condition que ces dépenses de l'État soient porteuses d'avenir, que elles portent sur l'investissement, la politique industrielle, la recherche, l'innovation, etc. Or, aujourd'hui, les dépenses de l'État portent pas là-dessus. Ce sont des cadeaux fiscaux à des catégories de revenus qui, en grande partie, sont des catégories qu'on catalogue vulgairement parmi les nouveaux rentiers. Bon, et pourtant, il y a une épargne abondante qui, aujourd'hui, se porte sur le financement de l'État. Hein, l'épargne, aujourd'hui, est fortement demandeuse des obligations du Trésor, ce qui fait que l'État peut se financer à des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui fait dire aux spécialistes que la dette est parfaitement soutenable parce que les taux sont bas, parce qu'il y a une abondante épargne qui a confiance dans la dette de l'État, et la dette de l'État français est même devenue une valeur refuge par les temps qui courent. Et donc tout le problème, sachant qu'il n'y a pas de problème de financement de la dette, c'est que aujourd'hui le gouvernement est en train de gaspiller les ressources qui sont drainées par cette épargne dans d'inutiles baisses d'impôts.
Mais ça serait quoi des mesures porteuses d'avenir financées par l'État? On ne voit pas trop.
C'est par exemple des mesures en faveur de l'éducation, c'est des mesures en faveur de la recherche, c'est des mesures en faveur de la capitalisation de certaines entreprises publiques à condition qu'on ne les privatise pas. C'est EDF, c'est GDF, c'est France Télécom, c'est ce qu'on appelait jadis la politique industrielle, qu'on a aujourd'hui confiée aux fonds de placement sur les marchés financiers.
Mais ça demanderait une révolution copernicienne, quoi. À nouveau une politique industrielle, un vrai investissement de l'État dans l'économie de la France, non?
Il faut tirer un bilan d'une politique qui, depuis 1993, revient quand même à confier les rênes des principales entreprises stratégiques aux fonds de pension américains. La moitié de la capitalisation boursière de la place de Paris est détenue par ces fonds de placement. Les noyaux durs que Balladur avait lui-même instaurés ont été progressivement défaits, et on a une structure des entreprises qui ressemble de plus en plus à la structure des entreprises américaines, où les fonds sont extrêmement spéculatifs. Même chez Airbus, Lagardère n'a qu'une envie, c'est de se tirer. Donc on peut pas dire d'un côté il faut relancer le volontarisme de l'État en matière économique et se contenter de dire et de prier que les marchés rompent avec un court-termisme qui les caractérise avant tout.
Des souhaits des hommes, donc toujours en compagnie de Lim Hogenhoek. Ça discute ferme autour de la table parce qu'il y a des petites questions que... Alors, en vérité, ça va être une double question. Hein. Débrouillez-vous, Lim. La première, c'est quel but est visé en fait par l'appel permanent à réduire la dette? Ça, c'est ma première question. Puis j'en ai une autre. C'est que ça doit bien servir quand même quelqu'un là qui a une dette. On doit bien payer des intérêts de la dette. Donc il y a quelqu'un qui est bien servi dans l'affaire. Donc il faudrait augmenter la dette.
Oui, à qui profite le crime? Le discours officiel consiste à dire que si l'on augmente la dette, comme je l'ai dit pour commencer, ça va pénaliser les générations futures qui vont payer des impôts et n'auront plus de quoi épargner et entreprendre. Et donc, à travers ce discours, il y a le procès de l'État. Il y a l'idée que l'État engage des dépenses inutiles qui pourraient être faites par le secteur privé, et a fortiori des dépenses improductives parce que l'État entretient une bureaucratie pléthorique à tous les niveaux, au niveau central et même dans les régions. Et donc vous avez un plaidoyer constant pour réduire les technos appellent les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses de personnel avant tout, de l'État central et des régions. Et à travers le thème de la dette, c'est le thème traditionnel chez les libéraux du procès de l'inefficacité de l'État qui est fait. Alors, en vérité, à qui profite le crime? On pense que la dette et la dépense publique profitent traditionnellement aux politiciens. J'utilise les termes des économistes libertariens américains hein, qui raisonnent en termes de marché politique et qui pensent qu'il y a des politiciens qui veulent se faire élire et qui construisent des programmes pour capter une clientèle électorale. Et donc, pour ça, ils ont intérêt à dépenser des deniers publics et, dans une démocratie représentative, d'après les économistes libertariens, eh bien, il y a une inflation de dépenses publiques parce que les hommes politiques s'entendent pour distribuer de l'argent aux clientèles et ça creuse les déficits, ça pompe l'épargne et ça tue le dynamisme économique. Bon. En vérité, ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est que pas du tout. Le crime profite pas à ceux qu'on désigne habituellement du doigt. Le crime profite en vérité, très clairement, aux rentiers aujourd'hui. Pourquoi ? On a une situation où l'État baisse les impôts. Ça profite en premier lieu aux épargnants, aux revenus qui sont les revenus qui épargnent et qui ont de quoi épargner. Donc, vers quoi se porte cette épargne ? Sur les actions, naturellement, mais aussi sur les obligations et sur les obligations d'État en particulier, qui sont une valeur refuge. Donc on distribue de l'argent à des gens qui épargnent, qui achètent des obligations d'État qui, elles-mêmes, vont rapporter des intérêts aux mêmes épargnants. Il y a un cercle vicieux qui profite finalement absolument pas à ceux auxquels on pense habituellement.
Je suis sidérée, c'est d'où le silence. Mais... C'est assez fou ce que vous racontez.
Mais j'ajouterais une chose, c'est que c'est absolument pas sur les générations futures que ça pèse cette affaire. En vérité, c'est un problème de répartition des revenus aujourd'hui. Aujourd'hui, la dette est financée par l'épargne d'aujourd'hui. La dette va soutenir ou ne pas soutenir une activité économique aujourd'hui qui va engendrer des recettes fiscales aujourd'hui qui vont payer les intérêts des rentiers d'aujourd'hui. Et donc, c'est un problème de répartition des revenus entre acteurs économiques d'aujourd'hui. Les générations futures ne font que percevoir par transmission, par héritage, etc., les créances et les dettes de leurs aînés, si vous voulez. Mais c'est un problème d'aujourd'hui. Et l'idéologie de la génération future, bon, c'est en vérité du pipeau, quoi.
Et oui, donc c'était Des Sous et des Hommes, première émission de la 6e ou 7e année, je crois, avec Lim Hogenhoek, donc qui a écrit Justice plus une question à Lim Hongnok sur la dette. Donc c'est une série d'entretiens avec Pierre-Luc Séguillon aux éditions Michalon et ça va sortir bientôt.
Le 20 septembre.
Le 20 septembre, ce qui explique que je ne l'ai pas lu. Dès que je l'ai lu, eh bien je réinviterai Lim pour en savoir un peu plus parce que le sujet est vaste et décoiffant comme on aura pu le remarquer. En tous les cas, je vais essayer de garder Lim pour l'émission de la semaine prochaine. Je me dépêche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La semaine prochaine.